un Toyota CHR. Subaru propose toutefois une version d'entrée de gamme avec une plus petite batterie et la différence de prix est assez marquée entre les deux. Il y a presque 7000 différences entre le modèle de base du CHR et le modèle de base du Uncharted parce qu'on a une plus petite batterie qui offre moins d'autonomie. Mais quand même, préconditionnement de la batterie en hiver, format qui est adéquat, conduite qui est puissante. Le modèle de base a un petit moteur, là. C'est pas gros. Là. Fait que c'est vraiment pas lui qui est le plus performant. Moi, j'ai essayé lui avec les quatre roues motrices, donc deux moteurs, un par essieu. Vraiment un produit surprenant sur la route. Maintenant, en termes de fiabilité, faut de revoir. C'est un nouveau véhicule qui arrive sur le marché. C'est, oui, une association avec Toyota et Subaru, mais je vous rappellerai que les deux, même si on a une confiance généralement avec ces marques-là en termes de fiabilité, les deux ont eu beaucoup de ratés avec le BZ4X et le Solterra auparavant. Donc, ce véhicule-là va devoir faire ses preuves. Si vous êtes impatient, que vous voulez vraiment aller chercher ce produit-là, je ne peux pas vous en empêcher en termes de comportement routier. Mon seul bémol, c'est attention sur la durabilité.
16 heures pile, il y a bien des chiffres de travail qui viennent de se terminer. Faites-vous un top 3 de pick-up, vous autres?
On fait ça.
Bon, ben tabarnouche, on va finir avec ça pour le plaisir.
Parfait!
Ouais.
Camionnette pleine grandeur.
Ah ouais donc?
On se paye la traite parce qu'il y a aussi les camionnettes plus petites aussi, là, mais j'ai sorti les pleines grandeurs. Troisième position, et puis d'ailleurs ça, juste pour vous dire à quel point les pick-up, là.
T'aimes ça aussi? T'aimes toutes les chars?
Ben oui, j'aime toutes les chars, sauf que cette année, pour une première fois, on ne recommande aucun camion pleine grandeur chez RPM.
Oh, OK.
Donc là, le top 3 que je vous fais, là, c'est comme les moins pires des pires.
C'est, pourquoi ça a vraiment pas été une bonne année?
C'est épouvantable.
Hey!
Les camions pleine grandeur, c'est épouvantable.
Qu'est-ce
que vous ayez un Dodge, que vous ayez un Chevrolet, un GMC, un Toyota, un Ford... C'est vraiment des véhicules remplis de problèmes. Il y a des propriétaires qui ont eu des problèmes de moteur, des problèmes d'assemblage, des caméras de recul, des haillons qui s'ouvrent. On a des rappels à l'infini par mois sur ces produits-là. C'est épouvantable. Et à un moment donné, honnêtement, la recette n'est pas compliquée, là. Ça fait des dizaines et des dizaines d'années que ces constructeurs-là font des camionnettes. Ils semblent plus capables d'en faire correctement. Et en plus, les prix ont explosé. Donc là, nous, on est tannés d'entendre les gens se dire que mon camion est toujours brisé. J'ai besoin d'un camion, mais là, lui que j'ai présentement, il ne marche plus. Le moteur a sauté. C'est mon troisième moteur. Les transmissions sont finies. Fait que c'est vraiment compliqué actuellement dans la camionnette.
Wow.
Pleine grandeur. Vraiment, puis il n'y en a pas un. Le Toyota a des rappels majeurs sur le Tundra actuellement avec les moteurs V6. Donc, que ce soit Toyota, que ce soit Ram ou peu importe, il n'y a vraiment personne qui s'illustre dans ce segment-là. Donc, en termes de palmarès, on est allé juste avec ce qu'on préférait des machines pour leur conception.
Les meilleurs des moins pires.
C'est triste de même. Troisième place, Ram 1500 qu'on a mis là. Moi, le retour du moteur V8 5.7 litres, je trouve que c'est une aberration. Le Hurricane qui était là faisait en masse le travail. Mais bon, on revient avec des vieilles patentes dans le Ram. Chevrolet Silverado aussi qu'on a mis en deuxième place avec le GMC Sierra. Je pense qu'une des raisons pourquoi on l'a mis là, c'est en termes de conception, produit qui est assez bien ficelé, qui a beaucoup de variantes également de disponibles. Et en première place, c'est le Ford F-150 qui prend la première position. Je me répète, on l'a mis là parce que, bon, il y a les versions Raptor, Raptor R, on a des motorisations hybrides, il y avait le Lightning qui était disponible, qui ne l'est plus maintenant, donc on avait un Ford F-150 électrique qui était disponible. Là, on l'a plus. Mais c'est pour cette raison-là qu'on l'avait mis là en se disant bon, c'est un produit qui est assez polyvalent dans son offre de service, mais qui n'est pas, pas très bon en termes de fiabilité.
Fait que pour tous les autres détails, on va retrouver ça sur le site de RPM.
RPMweb.ca, les meilleurs achats 2026. Et prochainement, on vous organise une émission spéciale où on va tout vous présenter ça. Ça va être disponible sur YouTube
et
un peu partout.
Et vous allez entendre Sam Tremblay-Michaud pendant toute la prochaine semaine avec notre chum Max.
Yes.
Fais juste attention de t'asseoir du bon bord de Maxime. Il y a des petites sensibilités au niveau du bassin.
Parfait.
OK.
Je m'occupe de ça.
C'est noté. Parfait.
Il y a des questions qui entrent par texto. Là. Allez lui écrire directement sur sa page Facebook. C'est toujours Samuel Tremblay-Michaud,
oui,
chroniqueur automobile.
Si vous voulez, un jour, on se fera une chronique de questions auditeurs, ça me ferait plaisir.
Absolument.
Va falloir le faire parce que tu n'as plus ton Facebook sur ton cell.
Non, mais je reçois encore sur Meta Business la patente pour gérer ma page d'adulte.
Ma page de grande personne.
Exact.
Salut Sam, merci beaucoup. Sam Tremblay-Michaud, chroniqueur automobile, rpmweb.ca. Courte pause, on revient.
Gravel. Boulevard.
Plus grande nature au cœur des plus belles régions du Québec.
Wow, c'est extraordinaire.
Une compétition où tout peut basculer en un instant.
Abandonne pas, jamais!
Auront-ils ce qu'il faut pour devenir de grands vainqueurs?
C'est pas fini, tant que c'est pas fini!
Épique, vendredi 20h, aussi sur le web et l'appli de Télé-Québec.
Que vous soyez des grands passionnés ou encore que vous soyez en mode magasinage, l'International de l'Auto de Québec, ça commence dès la semaine prochaine. Du 3 au 8 mars, on s'installe au Centre de Foire Exposité. Vous allez pouvoir découvrir les nouveautés automobiles, une panoplie d'activités, la zone Gilles Villeneuve, la zone Étoile, les voitures de collection, d'une valeur de plus de 15 millions de dollars, la collection, pardon, le karting pour enfants. Il y a des essais routiers qui se font sur place, puis il y a un incontournable depuis des années, la fameuse zone familiale Toyota, en collaboration avec Mille Pattes Amusement, des jeux gonflables, une halte garderie, et du maquillage. Fait que c'est une destination en famille pour plaire à absolument petits et grands à l'International de l'Auto de Québec. Manquez pas l'événement familial de la relâche qui se produit en collaboration avec Banque Scotia, présenté par IA Assurance Auto et Habitation. Pour tous les détails et acheter vos billets, allez sur internationaldelautodequebec.com.
Chaque fois que je vois mon...
h 10, bienvenue chez vous à Boulevard 102.1, bienvenue chez nous dans le retour. Moins 4 degrés à Québec. Demain, ce sera vendredi, on va parler de nouveautés musicales, nouveautés streaming, nouveautés cinéma, nouveautés chaloux également. Les produits, je suis allé les chercher au chaloux Beauport, Sam qui nous avait laissé une petite livraison. Et sans vous vendre de punch... Je pense que les demoiselles seront très heureuses des produits qu'on aura à déguster demain pendant Gravel dans le retour, entre 14h et 18h. D'ailleurs, si jamais vous prenez la route, c'est le début de la relâche, il y en a qui commencent ça peut-être un petit peu plus de bonne heure, bien, oubliez pas de vous prémunir de l'application Boulevard puis d'installer ça sur vos téléphones, blvd.fm. Si vous avez un ordinateur, pas loin. Mon nom est Denis Gravel. Véro est là, se prépare pour les nouvelles dans les prochaines secondes. Et Audrey, dans la circulation, en plein cœur de l'heure de pointe à Québec.
C'est très bien installé depuis déjà une bonne demi-heure. Si vous êtes sur la capitale, direction est, à la hauteur de Robert Bourassa. Robert Bourassa, direction nord, entre Charest et la capitale. Toujours au ralenti, si vous êtes sur Henri IV Sud, à partir de Versant Nord jusqu'à l'entrée des ponts, c'est relativement difficile. Il y a Duplessis Sud où c'est compliqué aussi à partir de Chemin Sainte-Foy jusqu'au pont La Porte. Un peu plus haut, direction nord sur Henri IV, à la hauteur de Sainte-Geneviève, je vous dirais. Il y a quand même un bon ralentissement, même que entre Sainte-Geneviève et l'avenue industrielle. Devant la base militaire, ça n'a pas bougé. Côte de la Bravo dans les deux directions. Route de Fossambeau à l'approche de la Jacques-Cartier, ralentissement à prévoir. Pour ce qui est de la 20 direction ouest sur la rive sud, c'est surtout à la hauteur de Chemin des Îles. Évidemment, vous voyez autre chose? 88-971-102 texto.
Notre journaliste Mathias Turcotte est en studio, ne recule devant rien pour qu'on ait l'information la plus fraîche. Il est allé au point de presse de Stephen Blainey qui se déroulait devant l'usine de filtration qui ne filtre pas. Et laissez-moi vérifier.
Il pue-tu?
Il y a de l'air correct. Il y a de l'air correct. On va lui parler dans les prochaines minutes. Il y a également Judith Demel qui va venir nous raconter des histoires d'horreur qui nous viennent du Palais de justice. Elle en a deux solides que vous ne voulez pas manquer. Hey, quand c'est rendu que ça sort des salles d'audience parce que les gens sont plus capables d'entendre le récit qui est raconté, c'est quand même assez spécial. On s'en reparle tantôt avec l'excellente Judith Demel du Soleil. Mais d'abord, on se lance dans l'essentiel de l'actualité de ce jeudi 26 février, Véro.
Tu l'as mentionné, Mathias, qui va venir s'asseoir avec nous autres pour nous parler justement des fameux documents qui ont laissé voir que du côté de Saint-Nicolas, de la portion de Saint-Nicolas à Lévis, qu'à l'usine de traitement des eaux, bien, on n'était pas capable d'en nettoyer au maximum, on s'arrête à 85%. Fait que là, de part et d'autre, ça se chicane aujourd'hui. Le moratoire revient dans l'actualité. D'ailleurs, en début de semaine, il y a un des partis à l'Hôtel de Ville de Lévis qui a décidé de se battre contre le moratoire. Là, c'est rendu que l'ancien maire de Lévis, Gilles Lehoulier, sort pour défendre sa décision de mettre en place le moratoire. Fait que, on dirait que plus on fouille du côté de Lévis, plus il y a des petites affaires qui ressortent à la surface, comme si, mettons, on n'avait pas été capable de tout nettoyer.
Puis là, c'est le bilan qu'on va remettre en question, celui de Gilles Lehoulier.
Je pense que c'est pas pour rien que l'ancien maire de Lévis sort aujourd'hui parce que actuellement son administration paraît pas très bien.
Ben pour rester dans ta ligne directrice, on dirait qu'il est parti puis qu'il a laissé Stephen Blainey pelleter sa marde. Voilà. Merci.
Et qu'on est divertissant.
Quand même facile, hein, c'est...
Parlons
quand
de
c'est
la...
facile, je suis jamais loin, hein, en passant. Ouais, tu cherches quelqu'un quand c'est facile. Ouais, je lève la main.
Tu lèves la main, t'es là pour nous autres. Merci. Nouvelle journée, nouveau sondage. Cette fois-ci, c'est un sondage qui porte sur la course à la chefferie de la CAQ. C'est un sondage commandé par Québec 125 qui a été réalisé les 21 et 22 février prochains. Puis, ben, ça va pas bien pour Bernard Drainville. Je sais pas s'il l'apprend aujourd'hui. Je pense qu'il s'en doutait parce qu'il avait déjà fait des sorties là-dedans en disant que
ben voyons,
c'était juste des sondages.
C'est la vedette de notre image sonore toute fraîche. Là. Ça va le faire monter, ça, d'un sondage, non?
Ouais.
Pense pas?
Parmi les électeurs caquistes qui ont été sondés, pas moins de 55 % disent avoir une impression défavorable de Bernard Drainville.
Je verrais pas pourquoi. Quelqu'un d'autant sympathique.
24 % d'impression favorable.
Je verrais pas pourquoi, tout simplement.
Attends, il est sympathique, par exemple, là. Faut pas tout y enlever, le petit.
Ben,
il
moi...
Il vient au bat, au moins.
Il y a peut-être... Ouais. Oui, il vient au bat. Mais moi, c'est juste une question d'approche. J'aime pas son approche. Ouais. J'aime pas l'approche passe-montagne. Allô, toi?
Ouais.
C'est Bernard. J'aime
ça donne ça. L'impression... Moi, je sais. Toi, tu comprends pas. Ouais. Je vais te l'expliquer.
Je sais que tu comprends rien. Mais je vais m'asseoir avec toi.
Ouais.
Puis je vais t'expliquer ce que moi, je comprends.
Oserais-tu lui dire?
Non, j'ai juste pas le goût d'y parler. Ben quoi? Qu'est-ce que ça donne? Tu sais, le point que je fais souvent avec des auditeurs, « Moi, marchand, je l'ai, je le traiterai de bandit! » Ben, non, ben pas moi. J'aime mieux pas parler aux gens que j'aime pas. Puis échanger avec des gens que j'aime. Ben, je sais pas, non.
Ça veut dire que t'aimes le maire, c'est
mais ça,
ça
enlève
là,
rien. Ben, j'aime jaser avec le maire, oui. J'aime pas le maire Marchand en tant que tel. J'aime pas tout ce qu'il fait, mais j'aime faire des entrevues avec le maire Marchand, alors que le sport de l'entrevue, puis tu le sais, c'est loin d'être mon préféré. Là. C'est anxiogène, puis j'aime bien mieux dire des niaiseries avec vous autres. Là. Mais, tu sais, des gens avec qui t'as pas une belle conversation. Je vais prendre... Je reprends tout le temps les mêmes exemples. Je suis vraiment désolé, c'est les seuls que je connais, mais... Tu sais, tu peux prendre deux bons musiciens, là. Mais t'es même dans le même local, là, pis y a rien qui se passe, là. Tu sais, à un moment donné, t'arrêtes de t'ostiner, tu ramasses ta guitare pis tu joues plus avec l'autre bassiste, là. Pis le bassiste, il va aller ailleurs, pis la base, elle va sortir, pis tout, ben... Tu sais, mettons que Bernard Drainville, quand je le reçois en entrevue, j'ai l'impression qu'on est deux musiciens qui sont pas capables de jammer. Pis c'est, ouais. C'est pas une question d'idée ou de valeur, c'est juste le flow de conversation, tu sais.
Je comprends.
OK. Je suis pas sûr de... Ouais, c'est ça. C'est que tu comprends ou je t'entends.
Non, mais c'est ça. Quand ça devient caduque, à quoi ça te sert de persévérer?
Ouais. C'est un peu ça.
Ouais, c'est peut-être moi qui me sens mal. On le caricature énormément. Puis je me dis, on a beau pas aimer
ce qu'on a entendu dans
ton,
c'est lui. Là.
C'est le vrai, c'est l'original.
J'abandonne.
Il est peut-être juste brûlé aussi. T'sais, moi, l'intérêt de recevoir François Legault, là, alors que sa voix m'agresse profondément, j'ai de la misère un peu.
Mais on fait pas la radio pour nous, on fait la radio pour les gens.
Ah, je pense que les gens sont écœurés de François Legault.
D'ailleurs, de la politique tout court, entre toi et moi. Là.
Oui.
Mais peut-être que les gens sont écœurés de Bernard Drainville aussi, puis c'est un peu ça qu'on peut voir dans les chiffres. Je continue avec les chiffres chez les électeurs caquistes sur justement une impression favorable ou défavorable. Pour Christine Fréchette, c'est pratiquement l'inverse. Là. 51% favorable contre 24% d'impression défavorable. Mais quand on élargit auprès de l'électorat québécois, il y a 32% des citoyens sondés qui ont une impression défavorable de Christine Fréchette, 26% une opinion favorable. Mais qui gagne? C'est l'impression neutre. Quand tu as 39% des électeurs
c'est un bon résumé,
qui ont une impression neutre, dans le cas de Bernard Drainville, 62% défavorable. Fait que c'est quand on dit là, quelqu'un qui est brûlé médiatiquement parlant, c'est là qu'on y arrive, un 13% favorable et un 21% neutre. Le sondage qui a mesuré la popularité des chefs, Bernard Drainville qui se retrouve en bas de liste, en fait, il y a Éric Duhem qui est en avant de lui, puis le seul autre qui est derrière, c'est qui? C'est François Legault. Fait que, tu sais, quand tu te retrouves en queue de peloton comme ça, au sens large chez les électeurs, c'est vraiment dur à remonter si on se fie à ce sondage-là qui a été dévoilé un petit peu plus tôt cet après-midi. À la question « Quel candidat ferait le meilleur premier ministre du Québec? » 40% qui répond Christine Fréchette, mais encore là, on y va très ciblé entre Bernard Drainville et elle, alors que Bernard Drainville est à 17 et aucun des deux s'en sort avec 22%. Ça a le mérite d'être semi-clair, par contre, je vous le dirais. Et le seul endroit où Bernard Drainville s'en sort bien, c'est chez les électeurs conservateurs où eux pensent à 31% qu'il fera un meilleur premier ministre que Mme Fréchette.
Rappelons que c'est les membres de la CAQ qui choisissent et personne d'autre, donc ça vaut ce que ça vaut.
Ça vaut ce que ça vaut, mais tu sais, si par exemple les membres du parti se rendaient compte que leur meilleur dans ces sondages-là était Bernard Drainville, bien vraisemblablement qu'on s'ajusterait à l'intérieur, j'imagine, au moment de voter, parce que l'objectif des membres, c'est que le parti reste au pouvoir. Oui. Là, actuellement, bien, je pense que ceux qui hésitaient peut-être entre les deux candidats, bien, ça risque de consolider.
Mon autre facteur de réflexion quand on reçoit des gens en entrevue versus des gens qu'on reçoit moins ou qu'on reçoit pas, c'est de voir aussi le nombre de tribunes qu'ils ont présentement à Québec. T'sais, un gars comme Stéphane Lachance qui a énormément de tribunes. Moi, j'ai beaucoup moins d'intérêt à le recevoir alors que je l'entends fréquemment sur mes ondes et sur les ondes des autres. Puis je pense que Bernard Drainville, Éric Duhaime, je rentre ça un petit peu dans la même catégorie. Puis l'autre affaire, Audrey, si je faisais de la radio juste pour moi-même, j'aurais juste deux sujets. Angine puis deux poitrines.
Genre, mais
là, c'est
lutte,
du passé, là.
Mais OK, on est ailleurs.
Suis la tendance.
Okay.
La tendance mondiale.
Oui.
Donnez les plaines Angine de poitrine au festival. Toi, vous êtes pas game.
Calme-toi, les plaines.
Les plaines à Angine. Les plaines à Angine.
J'aime bien ce qu'ils font, là.
Ah,
mais même si tu leur donnes la petite scène, je te garantis qu'au début du show, c'est plein, puis qu'après deux minutes, il y en a la moitié qui est partie.
Levez le nez sur ce phénomène international. Fuyez les tendances.
Alexandra Strelitzky a réussi à remplir, à faire. C'était hot, là.
Oui,
c'était...
tout à fait. Mais t'as-tu écouté un album au complet dans Jeune de poitrine?
Ah, mais je te ferai pas longtemps, là.
C'est
ça. Ça plaît pas à tout le monde.
Ben non, ça doit être pour ça là, que le phénomène est rendu mondial. Ça doit être pour ça.
Toi, quand tu décides.
Mais levons le nez, hein. Levons le nez sur ces petits Québécois qui réussissent à l'international.
Il y a personne qui a levé le nez. Hein? C'est quoi ton problème?
Quand le réalisateur fait d'une, là, faut pas lever le nez là-dessus. Mais
de
là,
quoi
whoop,
tu parles?
Le petit band que j'ai découvert avant tout le monde,
Denis,
cet été, soudainement.
Ils sont partout.
Ben oui.
Il y a des articles, eux autres, partout. Les gens ont acheté les billets. Pourquoi tu dis que
les plaines à Angine.
Ça, il est
ça
fou.
Remplira pas. Tu iras même pas, Denis.
Ben oui, je vais y aller.
Non, tu iras pas.
Ben oui, je vais y aller. Oh, je vais y aller déguisé. Je vais faire les signes de triangle. Ben, pis tout. Ouais. Être là.
Là, c'est trop.
Qu'est-ce qui est
tu
trop?
Tu vas écœurer du monde. Ils voudront même pas y goûter à cause de ça.
Pourquoi?
Ben parce que t'es trop intense.
Je suis pas trop intense.
Oui.
Il y a juste ça sur mes fils présentement. À
on appelle ça des algorithmes.
Ça, on appelle ça une chambre d'écho et des algorithmes.
Il y a un gars que je connais, il anime un show du retour à Québec à Boulevard 102.1 qui dit aux gens de se méfier de ces algorithmes.
C'est bon, fais des nouvelles.
Il est pas content.
Fais des nouvelles, c'est correct.
Hey, j'ai besoin des auditeurs qui sont dans le secteur de la MRC de la Jacques-Cartier. Texto 418-971-1021, si vous... T'es-tu en train de bougonner pour vrai?
Non, je fais autre chose.
Il a tassé son micro et il est en train de regarder les textos.
Denis Gravel!
Tu me fucking niaises, là!
Denis!
J'avais des choses à dire, mais je ferais ça une autre fois. Je ferais ça en revenant.
Oh mon Dieu!
Ah, il fait des nouvelles, c'est correct.
Ok, on est là.
On est rendu là? T'es fâché?
On vit-tu vraiment ça, Denis?
Hey, il a mis son micro à trois pieds de sa face! Gravel, il boude!
Il a fermé son micro!
C'est l'équivalent d'un enfant qui fait une crise du bacon à l'entrée du Dollarama!
Il est pas fermé, mon micro.
Tu t'avais fermé la slide, Denis Gravel.
Je
peux juste te dire que c'est sur le Twitch, là.
J'en ai besoin, ils vont revenir.
Mais voyons donc!
On prend du retard, là. Il y a beaucoup d'invités qui s'en viennent.
Ah oui,
oh,
hein?
Mon
ah,
Dieu,
puis c'est de ma faute!
Coup, c'est important. Okay.
Mais je suis assez sérieuse par rapport à ce que je vais vous discuter. Puis pourquoi je veux l'opinion de nos auditeurs qui sont dans le secteur de la MRC de la Jacques-Cartier? C'est Radio-Canada qui a sorti cette information-là. Vous savez que quand le maire a commencé à parler des travaux du tramway en disant qu'il va falloir limiter la congestion, il va falloir que les gens changent leurs habitudes, dans un texte qui est paru il y a une demi-heure de ça, le transport collectif de la Jacques-Cartier n'enverra plus d'autobus au centre-ville de Québec à partir du 1er avril pour éviter de surcharger le réseau routier qui sera modifié à cause des travaux du tramway. Ça veut dire que l'acronyme, là, c'est le TCJC qui dessert Fossambault-sur-le-Lac, Sainte-Catherine-la-Jacques-Cartier, Stoneham-Tewksbury, Lac de l'Age, Lac Beauport, Sainte-Brigitte-de-Laval et Shannon va débarquer les gens, puis ils devront prendre ensuite de ça le RTC. Dans nos auditeurs, s'il y en a qui prennent ce transport en commun-là, est-ce que ça va changer vos manières de voir et de faire les choses? Il y en a qui assuraient une desserte directe durant les heures de pointe vers le boulevard Laurier, l'Université Laval, la colline parlementaire, mais à partir du 1er avril, ils vont arrêter au terminus de la Faune, puis à partir de là, ils devront prendre des autobus pour ce qui est du RTC. Je sais pas si ça aura un impact sur l'achalandage, mais je suis quand même curieuse. Denis, quelque chose à dire?
Hein?
J'en reviens pas qu'on vit ça.
Ça m'insulte, là. Ça m'insulte tellement, là.
Qui boude ou qui t'écoute pas?
Les deux. Je trouvais ça important comme nouvelle.
Oui, c'est important.
Résume-moi la nouvelle.
Ben c'est important.
C'est quoi?
C'est des transferts. Le RTC sera pas pareil. Puis, en tout cas, si ça vous touche, parlez-en. 418-971-1021.
Et... il en reste une, Véro?
Oui, il en reste une, Audrey, merci. C'est un début d'année record pour le tourisme dans la région de Québec. On s'était parlé du temps des fêtes avec des taux d'occupation importants dans les hôtels, hein, Denis?
Bien sûr.
Parce qu'il y a des gens qui sont allés voir Angèle de Poitrine dans le temps des fêtes, hein, tu le sais?
Oui, ils ont trouvé ça long.
Quoi?
Ils ont trouvé ça long.
Ils ont trouvé ça chier,
Véro. Après deux tonnes, ils étaient tannés.
Ils voulaient rien savoir de ce groupe-là, je comprends, c'était plate.
Ouais, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'écho à l'international.
Hein?
Ça ressemble tout un peu sur musique. Là. C'est vrai que c'est...
Fait que des bons chiffres dans le tourisme.
Entre le 1er janvier et le 21 février...
Taylor Swift, c'est pas tout le temps la même affaire.
Hey, je peux pas croire qu'on vit ça, sérieux.
C'est pareil. Comprends. C'est
vous écoutez une radio de l'extrême centre où c'est important d'avoir des discussions puis d'écouter les arguments des autres.
Ah oui.
Hey, t'es vraiment boqué, Gravel.
J'ai tous tes arguments. Hein?
Comme quoi?
C'est
qu'est-ce que j'ai dit?
J'ai fini, j'en parle
c'est
plus.
C'est quoi mes arguments?
J'ai fini, j'en parle plus. C'est fini. J'en parle plus dans Jeune de la poitrine. Tu peux, on n'essaye pas de les avoir, notre jeu. Je sais pas.
Hey, là, Denis, là, reviens-nous, sérieusement, là.
C'est correct.
Je peux pas croire.
On va lui envoyer des messages moi-même.
Tu niaises, hein, pour vrai?
De mes petites affaires.
C'est une blague, là?
Non, c'est correct.
C'est pour faire comme des bons médias sociaux, genre, c'est pour.
Non,
c'est quoi, là?
C'est bon, c'est correct.
OK. Ouais.
Il restait une nouvelle, je pense,
je l'ai qui n'était
pas. Ouais, c'est fini, OK. Oui. Hey, au retour, 16h25. Merci, Véro. Ce sera notre ami Mathias. Qui est allé...
T'aimes-tu en gêne de poitrine, Mathias? Parce que sinon, t'as pas ta place dans le
restaurant.
Juste arrêter de parler de ça parce que ça irrite un peu. Là. Je pense que les gens sont tannés. Le tour est fait. Hein? Ça... pas bien bon.
C'est tes bébés là-là.
C'est pas un gros... fait que, ça, on parle plus de ça. Là. 16h26.
Wow! Oh là là!
Gravel!
16h31, amateur de Megadeth, c'est l'heure. 418-971-1021. Dépêchez-vous avant que Véro aime plus ça. Megadeth, le 6 mars prochain, au Centre Vidéotron.
Tu sais que j'ai dit les mêmes choses que Véro, puis là, tu les tapes sur la tête.
Qui est allé voir Angèle de Poitrine dans cette pièce-là dans les deux derniers mois? Levez la main.
On parle plus de ça.
Il y a juste moi qui est allé. Il y a juste moi qui s'est déplacé entre toi et moi.
Je suis
allé les voir à Kaléidoscope, Austin, resto complet.
Un petit peu tanné, là. C'est un peu c'est démodé, comme dirait mon fils.
Et tu boudes.
C'est qui les. C'est parce qu'il y a des gens qui veulent les billets. J'essaie de garder le sérieux de cette émission.
C'est toi le sérieux de cette émission.
Absolument. Qui sont les deux groupes en première partie de Megadeth le 6 mars prochain au Centre Vidéotron? Nombre de fois qu'on vous l'a dit...
Angèle et Poitrine.
Je veux les deux. C'est deux mauvaises réponses. 418-971-1021, 418-971-1021. Megadeth s'en vient pour son concert d'adieu au Centre Vidéotron le 6 mars prochain. Si jamais vous manquez votre coup, pas que je vous le souhaite, il va rester gestev.com et ticketmaster.ca. Hey, justement, avant la pause, Véro vous disait qu'Angèle de Poitrine, c'était de la marde. On va continuer de parler de marde. On va parler de l'usine...
C'est tellement faux!
Quoi? On va parler de l'usine de filtration qui ne filtre pas du côté de Saint-Nicolas, précisément. Des chiffres qui surprennent bien du monde de voir qu'il y a encore de la marde pas filtré, qui s'en va de manière régulière dans le fleuve, de voir qu'il y a des municipalités qui sont au courant depuis de nombreuses années et qu'on laisse ces problèmes-là s'accumuler. Et Stephen Blainey, qui vient d'arriver dans la game du côté de Lévis et qui a tenté de répondre aux nombreuses interrogations des journalistes. D'ailleurs, notre journaliste Mathias Turcotte était sur place. Mathias, bonjour.
Bonjour.
C'était devant l'usine de filtration
oui,
où on ne filtre pas.
Puis, non, ça a l'odeur pour vrai.
Ils vous ont-tu fait visiter l'intérieur?
Non, puis ça me dérange pas, tu vois.
Avez-vous déjà visité ça?
Ben au primaire, ils nous ont fait subir ça. Je pense que c'était à mode dans le temps de...
Pour la conscientisation, hein?
Ouais, ben j'imagine que la pulperie était fermée, là. au Saguenay-Lac-Saint-Jean, quand la pulperie est fermée, il ne reste plus beaucoup d'activités pour les jeunes.
Ouais, puis la Maison-Blanche n'était pas encore inondée
non,
dans le sang, là.
Il n'y avait pas eu le déluge encore, puis les eaux de Saint-Félicien, c'était trop loin, fait qu'ils nous envoyaient voir l'usine de filtration, puis la plupart poignaient la gastro dans la fin de semaine.
Nous autres, c'est en écologie secondaire 2, puis des ados qui voyaient des condoms puis des tampons flotter dans l'usine d'épuration et qu'on trouvait ça drôle.
T'aurais pu profiter du moment pour aller faire une petite visite guidée avec M. Blainey, tu sais.
Ben là, malheureusement, les jeunes pourront plus y aller. On coupe dans les sorties scolaires culturelles.
C'est malheureux.
c'est vraiment...
Qu'est-ce qu'il y avait à répondre, Stephen Blainey? Puis en même temps, je trouve tellement que au nombre de fois qu'on se fait dire ça... Spécifiquement, Stephen Blainey, là, aurait pu dire « c'est de la faute de l'administration précédente ».
Oui, bien, on va traiter ça un peu plus tard. Pourquoi il ne met pas toute la faute sur l'administration précédente? Parce qu'il y a une raison derrière ça. C'est 15 % des eaux usées traitées présentement à la station de traitement des eaux usées de Saint-Nicolas qui sont rejetées directement dans la rivière Chaudière ou encore...
Donc, sans être traité.
On a tenu à préciser. Il y a quand même ce qu'on appelle un pré-traitement. Donc, tout ce qui est objet ou matière solide...
OK, c'est un tamis.
Oui, exact, oui.
T'as-tu la grosseur des trous du tamis?
c'est horrible, ça!
C'est la passe à spaghetti!
c'est dégueulasse!
Je peux pas te dire que tu peux passer ou pas.
C'est à partir de... C'est à partir de quel morceau d'étron que ça reste dans... Ça reste du bon bord, du
un
tamis?
Un tampon, ça passe-tu?
J'ai pas un nombre de centimètres. L'information que j'ai, c'est matière solide, normalement. Ça passe pas.
La gerbille que la mère d'Audrey a flochée dans la toilette, elle passe-tu le tamis ou elle passe pas?
Faut être en santé, finalement, pour que ça passe pas, parce que si moindrement c'est mollasse, ça passe.
OK, c'est bon.
Fait que, ouais.
Mes intolérances, si j'habite à Saint-Nicolas, ça passe.
Je suis content de rester à Charlebourg, je suis pas un problème de la ville. Je suis pas un fardeau.
Bon, avant tout, on revient au sérieux.
Oui, absolument. T'es là pour ça, Mathias. Sérieux,
Fait que c'est quand même des informations préoccupantes. Puis ça fait extrêmement réagir partout à Lévis, puis même à Québec. Là, on voit ça, puis on se questionne. La question a été posée à Stephen Blainey, le maire de Lévis, parce que c'est en 2024 qu'on parlait de 15 %. Donc maintenant, on est en 2026.
Ça a dû s'améliorer.
Est-ce que c'est rendu pire? Est-ce que c'est rendu au-dessus de 15 %? La question lui a été posée pas une fois, deux fois, trois fois. Il lui a été posé nombre de fois.
Il répétait sa bonne réponse?
Il répétait tout sauf la réponse à la question. Je vous ai fait un petit montage de ses différentes réponses.
En fait, M. Bellemare, je vous répondrai la raison pour laquelle on investit présentement pour maintenir la capacité et pour laquelle on investit 70 millions, c'est précisément pour rencontrer les nouvelles normes environnementales. En fait, ce que je vous dirais, c'est que les normes se sont resserrées. Donc, probablement que si la station avait été conçue aujourd'hui, elle serait été conçue de manière différente pour répondre aux normes du jour. Vous savez, l'important, à chaque fois qu'il y a une goutte d'eau qui ne devrait pas aller dans le fleuve qui y va, c'est pas acceptable. Et c'est la raison pour laquelle on investit dans nos stations pour corriger la situation. J'ai pas la donnée du 15 ou du 16 % ce matin, non, effectivement.
D'après moi, c'est pas mieux. Si on n'a pas amené de correctif, d'après moi, c'est pas mieux. Il y a plus de monde, il y a plus de maisons, il y a plus d'étrons, je veux dire.
Mais
tout ça est relié, là.
Ils ont-tu voté pour un ancien politicien?
Ben oui.
C'est une réponse de politicien de carrière. Puis c'est Stephen Blainey a été député au fédéral.
Comme on dit,
il était ministre aussi. Hein?
Ben oui. Comme on dit, ça arrive nord, tout est dans tout. Puis comme vous dites, ça arrive sud, ben tout est dans le prout.
Puis là, moi, après, je suis censé...
Oui,
garder mon sérieux pour livrer d'informations.
Mais là, moi, le bout que je ne comprends pas, dans ma tête, c'était une présentation de presse facile pour Stephen Blaney, dans le sens où tout ce que tu as à dire, c'est là, nous autres, là, on vient d'arriver et on se rend compte que... Il y a beaucoup de choses qui ne tournaient pas rond dans la ville avec Gilles Lehoulier, puis on est en train littéralement de ramasser la merde dans le filtreur.
Ben ce serait vraiment la solution simple de dire ça.
Mais c'est pas ça.
Puis il peut pas le faire présentement pour la raison simple que la ville, présentement, elle a des poursuites de 31 millions de dollars à propos des moratoires. Donc si Stephen Blaney sort puis dit...
C'est de la faute à Gilles.
De Gilles.
OK, je comprends.
Ben là, la ville se retrouve dans une position difficile pour ces poursuites-là. Mmh. Fait que c'est la raison majeure pourquoi il ne rejette pas la faute complète sur l'administration précédente comme qu'il pourrait le faire.
Parce que ça va retomber à être de la faute à la ville, puis c'est eux autres qui vont payer.
Exactement. Par contre, aujourd'hui, on a quand même critiqué davantage ce qui a été fait par le passé.
Ben, je vous dirais qu'ultimement, dans toute administration municipale, les stratégies relèvent du conseil du maire et du conseil municipal. Donc, la situation qu'on vit actuellement, ben c'est effectivement, nous, on arrive au mois de janvier, c'est le résultat d'une croissance importante et manifestement, la planification n'a pas été au rendez-vous.
Ouais. C'est un beau, pour vrai, c'est un beau gâchis. C'est un gros gâchis qui est en train de péter d'en face à Lévis. Gilles Lehoulier a réagi. Oui, carrément. Gilles Lehoulier a réagi, lui, à ce qui se passe présentement.
En fait, il a réagi aux poursuites de moratoire.
Parce que c'est dur à défendre, là.
Oui, parce que lui, ce qu'il mentionnait, c'est que de mettre un moratoire, c'est que c'est un risque calculé de la part de la ville. Puis, tu sais, il dit, on a agi au moment où la loi nous a donné ce pouvoir-là. Puis, il est convaincu que la ville n'aura pas indemnisé les promoteurs. Fait que, tu sais, tout ça est lié. Parce qu'une des raisons pour lesquelles on a dû mettre un moratoire, c'est parce qu'on n'était pas foutus de traiter toutes les eaux.
Puis, lui, il est convaincu. Une des raisons qu'il dit pourquoi, selon lui, la ville va rien verser, il dit, si la Cour décide autrement, ben ça vient, entre guillemets, invalider la loi de l'Assemblée nationale. Fait que lui, c'est un peu comme ça qu'il défend ça.
Il aurait pu amener les bonnes nouvelles aussi, par exemple, parce que je viens de faire une vérification, puis dans tout ce tohu-bohu-là, j'apprends que, heureusement, le Taco Bell de Lévis est fermé depuis un certain temps et ne rouvrira pas. Donc, on évite le pire. C'est un peu ce que je voulais
dire.
Beaucoup
de questions pertinentes sur le texto, à savoir, est-ce qu'on va bannir ou mettre un moratoire à tout le moins sur les épluchettes de Blédine dans le secteur de Saint-Nicolas? Les prochains mois.
Ben, parlant des pieds de blé d'Inde, là, le fameux tamis, là.
Son format, là.
Le blé d'Inde.
Parce que tout le monde sait que le blé d'Inde ressort comme il est rentré.
Oui. C'est connu.
Tu manges la crème de maïs?
Oui.
Les grains se refont.
C'est connu. Tout le monde sait ça.
Je tiens à dire, pour revenir encore une fois.
Oui, travaille fort.
C'est bon, Mathias.
Non, mais comme vous l'avez compris, Stephen Blaney ne peut pas rejeter complètement la faute sur l'administration Lehoulier. Par contre, c'est pas entièrement la faute de Stephen Blaney, puis ça, tout le monde en est conscient. Arrivé. Il y a un point qui est intéressant, par contre, c'est que Dominique Deslauriers, le directeur général de la ville de Lévis, il est en poste depuis 2024. Donc, Stephen Blaney a quand même fait le choix de garder le même directeur général qui était en place lors des avis confidentiels, puis qui a quand même accompagné Gilles Lehoulier jusqu'en 2025.
T'as fait un lapsus, t'as parlé des avis confidentiels, mais c'est les avis du contentieux, mais c'est la ville qui dit que c'était confidentiel puis que ça aurait jamais dû sortir au jour par Radio-Canada.
Oui, ben justement, tu y viens, là, puis ce même directeur général-là a envoyé une lettre à Radio-Canada pour leur demander de retirer leurs articles en lien avec l'information comme quoi la station de traitement d'eau de Saint-Nicolas retenait pas 15 % des eaux usées.
Ben, premièrement, il est trop tard. Je veux dire, la marde est rendue dans le fan.
Oui, tu peux pas le remettre dans le tube.
La deuxième raison, c'est que il y a rien de confidentiel là-dedans. Je veux dire, c'est des usines de filtration qu'on paye, que les gens de la Rive-Sud financent avec leurs taxes. La performance de ces infrastructures-là, c'est de domaine public, c'est de nature publique. Là, le directeur de la ville, il l'a peut-être juste gardé pour pouvoir faire un geste quand il va y avoir trop d'eau chaude dans Marmite, puis dire « je mets dehors le directeur général ». C'est peut-être de même que ça va virer, mais parce que ça va être une chasse aux responsables. Puis moi, ce que je trouve présentement, c'est que Gilles Lehoulier s'en tire drôlement bien sur ce qu'on commence à découvrir qu'il a laissé comme héritage, parce que pendant des années, quand on parlait du développement sur la rive sud, il y a un paquet de gens qui manifestement connaissaient plus ça que nous autres, qui disaient « ça va trop vite, les infrastructures ne suivent pas, on va avoir des problèmes ». Là, l'argent rentre parce qu'ils bâtissent, ils bâtissent, ils bâtissent, mais c'est sûr qu'on va trop vite et c'est sûr qu'on va avoir des problèmes. Là, on en découvre un gros. Au niveau financier, on en a découvert une coupe aussi.
Du côté de la mobilité, ça a probablement été le premier indice quand on s'est rendu compte qu'on n'avait pas ajusté les différentes infrastructures pour le transport en commun, même les routes, pour être capable de gérer le flot de véhicules.
Et lorsque ces problèmes-là sont mis au grand jour, notre réflexe, c'est d'aller demander aux journalistes de retirer leurs articles. Non, mais c'est ça quand même. Puis Denis, t'en as parlé, c'est dans le public, c'est de même. Dans ce cas-là, tu vas beaucoup aimer la réaction que Serge Bonin, chef de l'opposition à Lévis, a eue aujourd'hui par rapport à ça.
Ouais, c'est assez inusité. Moi, je n'ai pas vu ça. En tout cas, j'ai pas entendu parler de ça depuis 4 ans que je suis dans mon mandat. C'est la première fois que j'entends parler d'une telle demande, qu'une ville demande à un média de retirer un article, non pas parce qu'il est faux, mais parce que ce qui est là n'aurait pas dû se trouver dans l'espace public. Si on veut que le public ne sache pas ce qui était là-dedans, ben c'est que la ville cache des choses.
Fait que c'est un peu pour ça que le moratoire a été déposé, vraisemblablement, parce que là, on voyait les problèmes s'accumuler, puis on a agi en panique, au lieu d'agir de façon préventive, graduelle, un peu plus responsable.
Puis tu parles de moratoire qui a été mis en place, je termine avec ça, parce que durant sa campagne électorale, Stephen Blaney disait beaucoup que c'était important de trouver le moyen de lever ce moratoire-là, ouais, le plus rapidement possible. Il jouait beaucoup sur ça.
Là, l'heure vient de changer un peu. Hein?
Ben, il s'est donné 4 mois pour nous présenter son plan de match. Ce 4 mois-là, il va faire une conférence le 11 mars prochain. Okay. Mais en attendant, je lui ai posé la question aujourd'hui, au vu des dernières évolutions, est-ce que c'est réaliste de penser qu'on va bientôt lever un moratoire?
Bien, est-ce que vous êtes capable d'un claquement de doigts de me rajouter 6 bassins réacteurs biologiques séquentiels? On est en mode action, on est en mode solution, mais nous aussi, on vit un mode en monde en 3 dimensions et on travaille activement à justement à lever progressivement le moratoire. Et je vous invite à être présent le 11 mars.
Oh, ça augure pas bien.
Bonne chance, non, les gens de Lévis.
Ça. Oui, bonne chance, les gens
ne
de
jamais
Lévis.
Oublier les gens de Lévis.
Non, surtout quand on chie. Hey, merci Mathias.
Ça fait plaisir.
Oui, bravo pour ton professionnalisme.
On a fait de notre mieux.
Il est 16h45. Vous êtes à Boulevard 102.1. C'est Gravel dans le retour.
Pour joindre l'équipe de Gravel.
Pour rejoindre Gravel dans le retour, c'est le 418-971-1021 par texto. Au téléphone, le 780-1021 dans le 418. Si c'est plus simple pour vous autres, ben utilisez le Messenger. Le boulevard 102.1 directement. Sur les routes, Audrey, ça se passe comment?
Ça commence à être de plus en plus difficile si vous êtes sur la capitale, direction est à la hauteur de Robert Bourassa. Direction ouest, c'est à la hauteur de Laurentienne que ça se passe. Robert Bourassa, direction nord, entre Charest et la capitale, c'est toujours au ralenti. Dans le coin de Val-Bélair, un peu plus haut, Henri IV Nord, à la hauteur de l'avenue industrielle, ça lâche pas non plus. Sinon, c'est vraiment la rive sud, la 20 direction ouest, entre Chemin des Îles et Taniata. Il y a aussi un ralentissement à l'entrée des ponts, direction sud, là, pour aller rejoindre le pont Pierre-Laporte.
Mes propos n'engagent que moi, mais dans les prochaines minutes, on va parler de 2 beaux grands champions de la dégueulasserie humaine. Et Judith Demeul est en studio avec nous autres, journaliste judiciaire au Soleil. Bonjour Judith.
Allô.
Ça va bien?
Ça va bien, toi?
C'est des journées rough au palais de justice par les temps qui courent?
Ouais, mais c'est rare qu'ils sont pas rough.
Ouais, mais là, je trouve qu'on a devant les yeux 2 sérieux cas, 2 solides cas. Et peut-être commencer avec le procès qui est en cours et qui sera en cours pour encore quelques semaines, ouais. Celui de Mathieu Martel, le coach de cheerleading.
Oui, l'ancien coach de cheerleading, parce que là, il est en prison depuis qu'il a été arrêté en 2023. Il est accusé là, de plus de 30 chefs d'accusation de nature sexuelle sur 11 plaignantes.
Je me souviens à l'époque, quand ça sortait, oui. Là, c'était aux semaines quasiment qu'on disait « Ah, de nouveaux chefs d'accusation, oui, déposés, de nouveaux noms qui sont ajoutés aux victimes présumées. »
Qui allaient voir la police. Là, c'est ça. La majorité, ce sont d'anciens élèves là, de Mathieu Martel qui avaient un centre de cheerleading, le Phoenix, là, si vous vous en rappelez. Là, ça a fermé en 2021. Puis, dans ce cas-là, justement, il y avait, c'est une ex-collègue de Mathieu Martel qui est à l'origine de tout ce dossier-là. Là. C'est elle qui a témoigné en premier à ce procès-là. Puis elle expliquait bon, qu'en 2010, elle avait déjà porté plainte. En fait, elle est allée voir la police pour porter plainte contre Mathieu parce que il y avait plusieurs commentaires qu'elle entendait, des rumeurs.
Elle avait des doutes, dans le fond.
Elle avait beaucoup de doutes. Puis elle aussi, elle avait été son élève un petit peu. Puis elle savait là, qu'il touchait. Là, elle disait qu'il touchait les filles quand ils faisaient leur culbute ou leur pirouette là, à des endroits où il n'était pas censé. Puis à l'époque, en 2010, on lui a dit, ben ça prend la fille en question qui porte plainte. Ouais. Là, elle, toute seule, elle ne pouvait pas faire grand-chose. Puis à ce moment-ci, les filles n'étaient pas prêtes. Puis là, ça nous amène, bon, 10 ans plus tard, quand son gym a fermé en 2021, cette ancienne collègue-là a rapporté en disant, tu sais, enfin, il est fini, il sera plus avec des enfants, fait que je peux tourner la page. Et puis dans le monde de Cheer, ça continuait à dire que, bon, il entretenait encore des conversations avec des mineurs. Puis là, cette fille-là, elle a dit, là, non, c'est assez. Elle a recueilli une espèce de dossier. Puis là, elle est allée voir la police en pesant sur le crayon, là, en disant,
ah ouais.
Il y a ça, il y a ça, il y a ça. Puis là, ces filles-là étaient maintenant devenues majeures.
Ils étaient prêtes à parler?
Plus prêtes à parler. Ils ont été rencontrés et il y a eu des plaintes qui ont été déposées. Et puis, quelques semaines, là, Mathieu Martel a publié une vidéo sur Facebook disant vouloir recruter à nouveau des filles pour faire une nouvelle équipe à la suite de la fermeture du Phoenix. Et puis là, c'en était assez. Là. Elle a dit non. Là. Fait que là, elle a envoyé ça aux enquêteurs. Puis je pense que Mathieu Martel, là, il a été arrêté là, un mois après ça. Là.
Il plaide non coupable à tous les chefs?
Il plaide non coupable à tous les chefs. Okay. Et puis là, c'est sûr que les plaignantes ont commencé à témoigner, puis c'est ça qui est dur à entendre. Là, ce sont toutes des jeunes femmes, là, début vingtaine, qui racontent avoir subi ça là, quand elles étaient mineures. Puis tu vois vraiment le cheminement de ces filles-là, là, à quel point, il y a 10 ans, elles le disent, là, elles disent, ben j'aurais pas dit ça il y a 10 ans, mais là, je réalise que... T'sais, ils sont conscients qu'il y avait une certaine manipulation, finalement, et que ce que Mathieu Martel faisait... selon ce qui a été raconté, c'était ben, absolument pas correct. Et que c'est cette maturité-là là, qui a embarqué, qu'ils ont fait un petit peu pousser à porter plainte.
Avant de parler du témoignage d'aujourd'hui, qui était dans le fond celui de la quatrième plaignante, de façon générale, qu'est-ce qu'on vient raconter? Je sais qu'il y a des échanges de textos, parce que j'ai lu des affaires qui me font dresser le poil ses bras, puis pas dans le bon sens, mais c'est allé plus loin que ça. Il y a des gestes, il y a des comportements.
Les deux premières plaignantes, justement, racontent qu'il y a eu... c'était souvent, ça commençait avec des commentaires déplacés. Au cheerleading, on commentait le corps des adolescentes. Là, elles avaient 13-14 ans. Il disait des choses comme « Ah, t'es belle dans ton kit » ou des choses qui se répètent pas à la radio, malheureusement. Là,
ben regarde, j'en ai 4 là, sous les yeux, je vais le faire. Là, je sais que t'es plus ou moins à l'aise, puis je comprends très bien, là, mais j'en ai 4 que je vais donner en exemple. Là. Tu es très sexy dans ton costume si tu aurais 18 ans. Fuck, t'es belle dans ton costume de bain blanc. T'es tellement hot, viens dormir chez moi et prépare ton condom, ça va se passer.
Il avait quel âge en ce temps-là, lui?
Lui, il avait fin vingtaine. Okay. Puis, bon, il y avait ces commentaires-là, puis il y avait des commentaires, c'est ça, reliés au poids, reliés à l'apparence et des commentaires à caractère sexuel. Puis avec les commentaires venaient souvent, bon, des claques sur les fesses qu'on a rapportées ou quand les filles faisaient leur tournée, souvent il y a une main qui se met dans le bas du dos, bien lui, il en profitait pour mettre sa main sur les fesses. Il y avait aussi des touchés au sein. Bref, ces filles-là ont rapporté ça au départ. Et puis, là, il y en a qui sont venus dire qu'il y avait aussi des messages qu'il envoyait sur Messenger, sur Snapchat, beaucoup. Ouais. Et ces conversations-là ont été présentées en preuve.
À partir du moment où on présente des messages en preuve, lui, il était au courant qu'on allait présenter ces messages-là. Pourquoi il a décidé de plaider non coupable alors que, à partir du moment où tu as des preuves, j'imagine que c'est des preuves de culpabilité qui sont difficiles à enlever du dossier. Là.
Difficile, mais maintenant, il faut prouver le contexte. Est-ce que le contexte était vraiment sexuel? Est-ce que c'était vraiment ça qu'on voulait faire?
Est-ce qu'il y a une interprétation, dans le fond?
Exact. Il faut prouver, bon, est-ce que c'est les messages dans l'entièreté ou est-ce qu'on n'a pas coupé? Tu sais, sur Snapchat, il y a des messages qui enregistrent puis il y a des messages qui se suppriment. Là. Les jeunes vont pouvoir nous le dire. Là.
Il y a quand même force de nombre là, dans un dossier comme celui-là.
Tout à
sont
fait,
11. Là.
Tout à fait. Puis c'est le travail du juge de tout démêler ça. Là.
Aujourd'hui,
Ouais, aujourd'hui, on est rentré dans une catégorie de plaignante là, qui a des accusations d'agression sexuelle sur elle.
Oui.
Elle nous a raconté, elle a raconté à la cour, en fait, avoir entretenu une espèce de relation secrète avec Mathieu Martel. Là. Il y a eu plusieurs fois où il l'aurait agressée sexuellement. Là. Elle, en pensant que c'était des relations sexuelles consentantes, là, elle avait 14 ans.
Avec 14 ans, lui, il était en position d'autorité à ce moment-là.
Ouais, c'était son coach. Puis elle expliquait qu'au début, elle aimait l'attention qu'il lui portait parce que, bon, elle se sentait importante puis lui était toujours là pour elle. C'est ça qu'elle a expliqué dans ses problèmes. Et bon, il y a eu des premiers événements où la première relation sexuelle qu'elle aurait eue avec Mathieu Martel s'est faite avec Amélie Dubé, qui est aussi accusée dans ce dossier-là, qui était l'entraîneur adjoint là, de l'équipe de
Les deux coachs. Elle a fait un trip à trois avec les deux coachs, puis ça a été sa première relation sexuelle.
C'est ce qu'elle raconte aujourd'hui.
Mon Dieu Seigneur. Ça a dû être un témoignage difficile pour la femme en question?
Oui, parce que, puis elle l'a souvent dit, tu sais, elle témoigne avec sa tête de jeune femme, puis il faut qu'elle se remette dans sa tête d'adolescente, puis on l'a senti qu'elle n'était pas fière de ça, puis qu'elle était un peu gênée de dire qu'elle avait fait ça, parce qu'aujourd'hui, elle comprenait tout ce que ça impliquait, mais, mm-hmm. mais à 14 ans, elle ne comprenait pas tout ça.
Ouais.
Fait que souvent, elle
Oh, que ça doit être dur.
C'est ça, elle partait dans tous les sens parce que là, elle lisait les textos puis elle disait ben là, je réalise que ça n'a pas de bon sens, mais c'est pas ça qu'on veut savoir, on le sait que ça
parce qu'elle est gênée,
bon
dans le fond. Là. Oui, elle doit se juger, là, carrément.
Oui, fait que c'est dur.
Oh.
C'est dur.
T'as parlé de ça la semaine dernière, puis je voulais te poser la question dans un autre procès, puis là, je suis en train de lire ton texte qui est en une du journal Le Soleil. On dit que la plaignante était accompagnée d'un chien d'assistance. À quoi ça sert?
C'est vrai, tu nous l'as glissé à quelques
reprises. Oui, moi, je pensais que c'était pour protéger au cas où que, je sais pas, moi...
C'est de la zoothérapie?
Oui, c'est pour les caresser, puis ils sont là pour calmer les victimes.
Okay.
Ils sont de plus en plus là. Je me demande si je les vois pas tous les jours.
Ça aide les témoignages difficiles?
En fait, oui, tu peux le demander ou non. Là, ça dépend que si toi, t'aimes pas les chiens, je suis pas sûr que
non,
ça
évidemment,
t'aider,
là. Ouais,
mais elle, tu sais, les premières plaignantes, elle n'en avait pas fait la demande, mais elle l'a demandé, puis tu vois, voyait que ça l'aidait beaucoup. Là, à chaque fois qu'elle trouvait ça plus dur, elle se penchait, elle flattait. Puis dans les pauses, elle était collée sur le chien. Puis si ça aide, oui. Là, puis il y a des super articles qui ont sorti là-dessus par rapport au programme du SPVQ là, à ce sujet-là. Donc si ça vous intéresse...
Tant mieux si ça peut aider, parce que ça doit être probablement de repasser dans tous ces événements-là. Ça doit être terriblement tough.
C'est un réconfort petit là, comparé à tout ce qu'elle dit avoir vécu. Là, mais... Mais oui, ça aide la plupart des victimes.
Mathieu Martel, pendant ce temps-là, quand les plaignantes viennent raconter ces histoires-là, puis particulièrement aujourd'hui, il se comporte comment, lui?
Très attentif, il prend beaucoup de notes.
Okay.
Il est très à l'écoute, là, il n'en manque pas une. Puis même que souvent, lui, sa télé, là, pour les textos qui sont présentés sur les écrans, elle est loin. Fait que souvent, il va se lever souvent pour lire exactement ce qui est présenté. Là, puis il parle souvent avec son avocate aussi durant les procédures. Donc...
Je ne sais pas si le mot « gourou » est le bon mot,
il a
mais...
été employé par les plaignants.
Oui, parce qu'au-delà du « cheerleading », il y avait d'autres affaires. Là.
Il disait qu'il était traducteur de l'âme.
Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Ça chasse les fantômes, ça chasse les esprits, c'est capable de communiquer avec l'au-delà.
Il faisait des sorties dans des cimetières?
Oui.
Pour faire quoi?
C'était du team building, qu'on appelle.
Avec toute l'équipe?
De cheer. Oui, souvent. Puis c'est ce que les filles ont rapporté là, depuis le début de la semaine, c'est que Mathieu Martel insistait beaucoup sur l'équipe unie puis à quel point le cheer doit être le centre de ta vie. Là. C'est un peu comme ça qu'il voyait les choses. Et donc, les filles étaient obligées un petit peu, là, ou se sentaient obligées de participer à ces activités-là qui étaient organisées par Mathieu Martel. Souvent, il y avait des chalets, c'était chez lui, et il y avait notamment des sorties au cimetière où Mathieu Martel disait parler à certains esprits, racontait des histoires concernant les morts et...
Hey, mon Dieu, moi, je suis un parent, mettons. Ma fille fait du cheer, puis elle m'annonce d'un matin que sa sortie, c'est dans un cimetière. Il me semble que ça me sonne une cloche bizarre.
Je suis pas sûre que c'était communiqué tant que ça à l'extérieur.
Mais tu voyais qu'il travaillait fort, puis j'imagine que ça fait partie de la preuve pour avoir une emprise au-delà du cheerleading sur des jeunes femmes.
C'est les prétentions de la poursuite en ce moment. Ils décrivent Mathieu Martel comme quelqu'un de très charismatique qui justement instaurait, comme tu dis, une emprise et manipulait là, les filles là, pour assouvir ses besoins sexuels. Et ça, je le répète, c'est les prétentions de la poursuite. Là, ça reste à être prouvé devant le juge.
La quatrième plaignante, celle qui a fait son témoignage aujourd'hui, à l'époque, était en amour avec
Elle disait être en amour. Elle faisait beaucoup de déclarations d'amour, puis... Ouais.
Le lendemain du trip à trois, elle est allée chercher la pilule du lendemain.
C'est pas elle qui est allée la chercher. C'est pas elle? On est allée la chercher pour elle. Mathieu Martel et Amélie Dubé sont allées se procurer la pilule.
Voyons.
La relation n'était pas protégée?
Non.
Et est-ce que toutes les plaignantes vont témoigner?
Oui.
Oui?
Oui, est-ce qu'on va... plaide non coupable à toutes, fait qu'il faut prouver toutes les accusations.
Est-ce qu'on va en ordre graduel de ce qu'on va entendre? Non, ou comment on procède?
C'est en fonction de la disponibilité des témoins. Puis souvent, il y a des témoins aussi qui viennent corroborer les plaignantes. Donc, tu sais, la première plaignante, on a eu son ancien copain aussi de l'époque qui est venu témoigner pour dire oui, elle m'avait confié ça à l'époque et tout. Donc, ils se sont aussi arrangés là, en fonction de ça, mais il n'y a pas d'ordre.
Souvent, dans des procès où il y a, puis encore une fois, j'utilise peut-être pas le bon terme, mais où il y a un esprit de secte. Mm-hmm. Souvent, dans un procès comme celui-là, il y a des gens qui vont venir, malgré tout, défendre le gourou. Est-ce qu'il y a des gens qui vont prendre la parole, soit dans l'industrie du cheerleading ou dans ses anciennes étudiantes, qui vont venir prendre la parole en sa faveur?
La défense n'a pas à annoncer ses témoins. Donc, on va le savoir lorsque la poursuite va avoir terminé sa preuve. Ça va être le tour de Mathieu Martel et on va savoir si lui va témoigner ou si ça va seulement être des gens pour lui. Mais je peux dire qu'il est accompagné, là, durant son projet.
J'ai pas capté, Judith, l'autre coach, là, la fille, elle.
Oui.
Là,
Amélie Dubé a été celle de l'histoire du trip à trois. Elle a été accusée, elle aussi, de contact sexuel par rapport à cette plaignante-là, cette victime, maintenant, parce qu'Amélie Dubé, elle a plaidé coupable au mois de décembre dernier. Puis, Amélie Dubé se disait elle est autant considérée accusée que victime. Puis elle, son procès pour ses gestes concernant elle par rapport à Mathieu Martel, ben il s'est tenu là, à l'automne, puis Mathieu Martel a été acquitté. Donc, on a décrété qu'il n'était pas coupable là, d'agression sexuelle sur Amélie Dubé.
Fait qu'on en a encore pour plusieurs semaines au palais de justice avec le
code Martel. Ça doit durer 4 semaines, oui. Oh puis, justement, là, aujourd'hui, le témoignage de la plaignante a été scindé, là, qu'on appelle, puis ça arrive souvent parce que... trouvait ça difficile là, de rester toute la journée. Puis il y avait beaucoup de questions. Puis après, le témoignage en chef vient le contre-interrogatoire. Et donc, elle avait préféré prendre une pause là, pour revenir.
Ça fait combien de temps que tu suis l'actualité judiciaire?
Ça va faire 3 ans.
3 ans. Est-ce que tu as vu une évolution par rapport aux attentions ou à l'attention qu'on porte aux témoignages des victimes au palais de justice en 3 ans ou c'est une trop courte période? Parce que moi, je compare avec des choses que j'ai vues il y a une dizaine d'années.
Comment qu'on les traite?
Comment on les traite? Puis je trouve qu'on les traite. Je suis pas dans la salle, j'entends juste tes récits, puis j'entends parler des animaux d'accompagnement, puis de toutes les prédispositions qu'on fait des fois pour qu'une victime ne voit pas son agresseur, puis ainsi de suite. Puis moi, l'impression que j'ai, c'est qu'on traite beaucoup mieux les victimes actuellement dans une salle de cours qu'il y a 10 ans ou 15 ans.
Faudrait demander, comme tu dis, à des gens qui sont là depuis plus longtemps, mais oui, on fait tout en notre pouvoir pour qu'elles soient à l'aise. Je dirais que ça dépend aussi des avocats. Là. C'est pas toutes les mêmes qui ont les mêmes approches.
J'imagine.
Avec les victimes. Donc, ouais, ça dépend, mais somme toute, là, on s'attend à ce qu'il y ait un traitement là, exemplaire. Là.
L'autre procès que je voulais que tu nous jases aujourd'hui, Judith, c'est un pédophile de 44 ans qui a plaidé coupable hier à des accusations de production, transmission et possession de pornographie juvénile, un récit qui était tellement insupportable qu'il y a des gens qui ont quitté la salle?
Oui, ça, c'est le genre de journée où tu te demandes « qu'est-ce que tu fais là? »
Les critiques de restaurants, ça pourrait bien faire une fois de temps en temps.
Parce que, puis dans ce cas-ci, tu sais, de la pornographie juvénile, je vous l'ai dit, il y en a toutes les semaines, de toutes sortes. Puis ce cas-ci est un des cas quand même extrême entendu là, de la part des procureurs et des enquêteurs qui sont tout le temps là quand les accusés plaident coupables. Et tu te dis, est-ce que je rapporte ça parce que ce qui a été décrit est vraiment d'une horreur? sans nom, innommable. J'ai pas donné beaucoup d'exemples dans l'article parce que ça se dit pas.
Carrément.
Et tu te dis, pourquoi tu rapportes ça, tu sais, parce que tu veux pas l'entendre. Puis d'une autre part, tu dis qu'il faut que tu le rapportes parce que ces gens-là existent. Mm. Puis il y en a qui travaillent à les coincer et à les neutraliser pour pas qu'il y ait de, d'agression sexuelle et de, d'enfants qui soient victimes là, de ces gens-là.
Et l'individu duquel on parle, Judith, c'est Sylvain Cagné.
Cagné, oui.
Qui a été arrêté après une grosse frappe policière qui visait des réseaux de pédophiles extrêmes.
Ouais.
Dans le réseau, il était connu sous le nom de Kinky Perv Pig.
Oui.
Kinky Perv Pig. Et peux-tu nous résumer au meilleur de ta capacité qu'est-ce qu'on faisait dans ces cercles de réseaux
parce
pédophiles-là?
C'est ça, les cercles de pédophiles, puis c'est quelque chose que, bon, si t'es pas pédophile, tu le sais pas, là. C'est des... Ils sont ensemble dans des...
Des forums?
Oui, sur plusieurs applications, sur plusieurs sites. Et ils ont des discussions entre eux, puis c'est partout à travers le monde. Donc, il y a des gens à l'escouade...
C'est sur le web, j'imagine?
Oui. Donc, il y a des gens à l'escouade d'exploitation sexuelle qui, eux, leur travail, c'est de surfer sur ces forums-là.
Et d'infiltrer les réseaux.
Et eux, c'est de lire ces conversations-là puis d'essayer de trouver des indices, à savoir s'il y en a sur le territoire de Québec, s'il y en a qu'on pourrait identifier par ce qu'ils disent. Et bon, ça doit pas être un travail facile mentalement, mais ça n'en prend. Fait que comment Sylvain Cagné a été épinglé, c'est qu'on avait arrêté à la base un pédophile de Montréal.
Oui.
Et quand tu l'arrêtes, quand tu ça vient avec une perquisition, donc tu saisis tous ses appareils et ensuite, les agents de l'exploitation sexuelle épluchent le matériel qu'ils ont saisi et donc ont consulté toutes les conversations que le pédophile de Montréal a eues. Et il y en avait avec Sylvain Cagné sous son pseudonyme là, que tu as si bien dit
Kinky
tout à l'heure.
Kinky Perv Pig.
Et donc, on a épluché ça, on a lu la conversation et la conversation qu'il avait avec cet homme-là était d'une gravité et assez extrême. On parlait de, je peux même pas dire enfant, là, on parlait de bébé.
Oh!
On parlait de, tu sais, je pense que l'âge, c'est ça qui frappe l'imaginaire. Donc, il y avait plusieurs choses qu'il disait en détail et il se vantait d'avoir agressé sexuellement dans le passé. Et donc...
Tu me permets de lire un extrait de ton texte?
Tu peux.
La première question de l'accusé au policier infiltré est « Aimes-tu les kids? » L'enquêteur répond que oui, entre 8 et 10 ans. Mais Cagné indique aussitôt à être plus pig en préférant les enfants de 2 ans. Il lui raconte une violente agression qu'il aurait commise il y a quelques années.
Donc, ce qui était alarmant là-dedans, c'est qu'il disait avoir agressé et disait vouloir agresser de nouveau. Parce que des fois, bon, les pédophiles vont être sur ces forums-là et ils vont parler de leurs fantasmes, de ce qu'ils aiment, mais on n'aura pas nécessairement de preuves que ces gens-là ont passé à l'acte. Donc, c'était alarmant dans le côté de Sylvain Cagné de ce côté-là. Donc, on a poursuivi la recherche puis on a décidé de mettre une opération d'infiltration, oui, comme tu dis, autour de lui. Et donc, on s'est mis à discuter et on a eu assez de... Puis là, ça a l'air vite, là, mais c'est des mois d'enquête où tu réussis à trouver une adresse IP, tu réussis à trouver une adresse mail associée à son pseudonyme. Puis
pour
finalement,
tout lier ça.
Tu l'identifies, tu le sais qu'il habite à Québec. Puis là, ben tu cognes, tu l'arrêtes, tu perquisitionnes et puis ben le contenu de ses appareils parle de lui-même.
Est-ce qu'on s'est rendu dans ce dossier-là spécifiquement à parler d'agression sexuelle proprement dite?
S'il y en a commis, si on a la preuve qu'il y en a commis. Ce dossier-là est particulier parce qu'au début, il était accusé d'avoir agressé sexuellement. Mm-hmm. Et puis, les accusations ont été retirées, mais la procureure a précisé qu'il pouvait en avoir d'autres ou qu'il pouvait survenir dans le futur des accusations. Fait qu'on pense que... Puis, tu sais, juste être politiquement correct là, à la radio, mais il parlait d'enfants. Donc, ces enfants-là, on ne sait pas en quelle année ça a été, puis on ne sait pas qui sont, donc doivent être identifiés.
Oh,
et tout ça, c'est un travail d'enquête. Et donc, l'enquête est encore active. Et si jamais on trouve... Bref,
des éléments supplémentaires, dans le fond, qui
voilà,
pourraient amener des accusations.
Voilà, qui peut mener à le dépôt d'accusation. Il y en aura d'autres. Mais pour l'instant, Sylvain Cagné a vraiment réglé ses dossiers par rapport à la pornographie juvénile. Et...
Moi, il y a un bout de ton texte qui m'a comme marqué là, sur le fait qu'il n'y a pas d'enfants autour de lui et donc il faut qu'il s'arrange pour en garder.
Oui, mm-hmm. Ouais. Parce qu'il veut en trouver.
C'est comme, c'est tough à retracer, là. C'est...
c'est pour ça qu'il faut travailler fort pour arrêter c'est avant qu'il garde. T'sais.
Les gens qui sortent dans la salle d'audience, c'est-tu des proches? C'est-tu des curieux?
C'est que là, on était dans une salle de roulement. Fait qu'on était dans une salle où il y a d'autres dossiers qui
mais qui n'étaient pas nécessairement là pour assister à ça.
Qui avaient leur dossier qui venait avant ou après. Donc, des fois, il y a des gens assis dans la salle. Des fois, il y a d'autres avocats. Hein, des avocats qui peuvent faire des dossiers de trafic de drogue, par exemple. Puis eux, ils n'ont jamais fait de dossier sexuel. Donc, eux autres aussi, là, veulent pas l'entendre. Ça. Mm-hmm. Puis dans ce cas-ci, c'était 17 pages. Puis la procureure a vraiment listé toutes les conversations les plus déviantes que j'aurais entendues. Et là, tu dis pourquoi elle en a mis autant, là, parce qu'après 3 pages, on avait compris, mais il y en a autant parce qu'après, il faut décider la peine. Oui. Puis il faut qu'elle reflète la gravité de ce qui a été dit, puis des conversations qu'il y a eues.
Si tu veux avoir la possibilité de donner la peine la plus sévère, faut que tu ailles la masse de preuves sur laquelle tu appuies.
Le résumé, c'est ça. Elle a lu le résumé, puis c'est ça, là, c'était long parce que 17 pages. Donc, au fur et à mesure, on avançait. Quand ça fait 15 minutes que tu lis des conversations entre deux pédophiles, il y en a qui en ont assez, là. Et donc, on quitte la salle en faisant des faces de « Hey, moi, pas besoin d'entendre ça. Je vais attendre à l'extérieur et je vais revenir quand ça va être mon tour. » Fait que c'était un peu ça, des phases de dégoût. Puis, tu sais, je veux dire, la juge aussi, là, quand elle lit ça, à sourcil, là, elle aussi, elle doit se contenir, évidemment.
Les gens qui restent là, Judith, toi, t'es restée.
Je suis même pas restée.
T'es pas restée non plus.
Je dois vous dire qu'après 10 pages de lecture, moi aussi, j'en
avais assez. T'avais ton tas, là.
Puis moi, je l'ai ensuite papier. Fait que je me dis, garde, je vais leur lire diagonale pour voir. Mais je pense qu'on avait compris le topo. Et ce sont des trucs qui ne s'écrivent pas dans un article de journal. Puis je pense
la démonstration était faite, là.
Le fait que je puisse pas l'écrire parce que c'est tellement vulgaire vous donne une image assez, tu sais.
Des fois, ça doit être dur de placer la ligne sur ça, je peux l'écrire, ça, je peux moins l'écrire, mais dans un cas comme celui-là, il n'y avait même pas d'hésitation.
Je pense que l'âge qui est mentionné frappe en déjà assez long. L'imaginaire.
Oui, t'as raison. Pouf! Judith, t'es extraordinaire. Je te fais pas des entrevues faciles. Je t'envoie pas dans des zones faciles non plus, mais... T'es faite forte, t'es faite plus forte que nous
autres.
Oh, tabarnouche. Merci encore d'être passé.
Merci à vous.
Judith Demel, journaliste judiciaire au Soleil. On va sauter un tour pour les rayons de soleil sur les histoires de merde, je pense, pour ce coup-là, spécifiquement. Allez lire son dernier texte, Judith est exceptionnelle en une du journal Le Soleil. 17h16, courte pause. On revient, vous êtes à Boulevard.
Gravel. Dans le retour.
Boulevard 102.1.
Gravel dans le retour, présenté par Canampon. Si